La chronique verte.
La chronique verte. La chronique nature. Une émission présentée par les Mordus de la Nature. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue dans le nouveau numéro de la chronique verte, animé par Juliette,
Bastien,
Camille,
Justine,
Alexandre
et Océane.
Nous allons vous accompagner sur les traces des castors.
Père Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout.
Père Castor, raconte-nous une histoire.
Après avoir failli disparaître au début du XXe siècle, il a été victime d'une chasse intensive pour sa peau, sa fourrure et sa chair. Le castor fut protégé dans certains départements du Sud en 1909. Il a progressivement recolonisé le sud-est de la France à partir des populations survivantes du bassin inférieur du Rhône. Cette dernière a servi de base pour la réintroduction dans toute la France. Elle a donc été primordiale pour la survie de l'espèce. À partir de 1930, on pouvait observer le castor dans la région de Montélimar. En 1981, le castor a été protégé au niveau national.
Mais où es-tu, castor ?
Une étude de répartition précise a été menée par le ministère de l'Environnement entre 1989 et 1995. Cette étude a été menée sur 15 départements du sud-est de la France.
Le Quick
Quiz.
Mais quel est ce drôle d'oiseau ?
Premier indice, c'est un animal de la basse-cour.
Prendre le taureau par les cornes.
Et si l'on prenait le taureau par les cornes ? Question d'actu.
Alors, bonjour, dans le cadre d'une émission de radio, je voudrais te poser quelques questions sur les castors. Donc d'abord, je voulais savoir si tu avais déjà pu observer un castor ou des traces de présence.
Alors, j'ai jamais vu de castor, mais j'ai déjà vu des barrages ou des arbres rongés.
D'accord. Et ensuite, je voulais savoir si tu connaissais la différence entre un castor et un ragondin.
Absolument pas.
Alors, le ragondin, il a une queue qui est beaucoup plus ronde que celle du castor. Il a une fourrure qui est plutôt dans les tons roux. Et il a le bout du museau ainsi que ses moustaches qui sont blanches. Mais le caractère, pour être sûr de faire la différence entre le castor et le ragondin, c'est que quand il nage, le ragondin, il a une bosse pour la tête et une pour le dos, alors que le castor, il n'y a que la tête qui ressort.
D'accord, pas de souci. Bah merci pour l'information. Bonne journée.
Le castor, et plus précisément le castor d'Eurasie ou d'Europe, est un rongeur de la famille des castoridés dont les ancêtres sont connus depuis 30 millions d'années en Europe. C'est un mammifère appartenant à l'ordre des rongeurs semi-aquatiques.
Mais combien pèse-t-il ?
Il pèse en moyenne 21 kg et peut atteindre 30 kg pour les plus gros. Il mesure entre 80 et 90 cm de long, avec une queue d'environ 30 cm. Il possède un corps robuste, une queue aplatie et couverte d'écailles, une fourrure dense et des organes sensoriels peu marqués.
Mais quelles sont ses aptitudes ?
Le fouissage grâce à ses ongles puissants qu'on trouve sur ses membres antérieurs. La préhension, donc la faculté de saisir un objet grâce à son pouce antérieur en opposition aux quatre autres doigts. Et la nage grâce à la palmure de ses membres postérieurs et sa queue aplatie.
Malheureusement, il possède une inaptitude au déplacement terrestre. C'est pourquoi il s'éloigne rarement à plus de 30 mètres de la limite de l'eau. C'est un animal nocturne et crépusculaire, pouvant vivre jusqu'à 20 ans maximum à l'état sauvage.
Mais que mange-t-il ?
Son régime alimentaire, exclusivement végétarien et très éclectique, se compose d'écorces, de jeunes pousses ligneuses, de feuilles, de végétation herbacée et de plantes aquatiques. Un castor adulte peut consommer jusqu'à 2 kg de matière végétale par jour. C'est un grand bâtisseur qui passe sa vie à aménager et améliorer sa hutte afin que sa famille et lui-même y soient bien installés. Les castors ne rongent pas seulement les arbres pour se nourrir ou récupérer des matériaux pour construire leur hutte, mais aussi pour se limer les dents, car elles poussent tout au long de leur vie.
Revenons à nos moutons.
Le cuicuicuiz.
Mais quel est ce drôle d'oiseau ?
Deuxième indice, c'est la plus grosse volaille que nous connaissons en Europe.
Curieux comme une belette.
Les naissances ont lieu en mai, après 110 jours de gestation, avec en moyenne 2 jeunes par an et par portée. Quand ils naissent, les castors pèsent environ 500 grammes. Ils sont élevés par toute leur famille et grandissent donc dans un environnement confortable, ce qui explique qu'ils aient une espérance de survie très élevée et que l'espèce se propage vite. Leur première sortie du gîte ne se fera pas avant l'âge de 6 semaines. Ils quittent le nid 2 ans après leur naissance, au printemps, et iront fonder une famille un peu plus loin. Les familles de castors sont donc composées d'un couple d'adultes, des jeunes des 2 dernières années, et couvrent généralement un territoire qui varie entre 1 et 3 km. Maintenant, nous voulions vous proposer une interview d'un spécialiste castor.
La pie bavarde.
La pie bavarde ?
Rencontre avec les acteurs du territoire.
Bonjour, alors en fait j'aurais eu quelques questions à vous poser. C'est la première, pourquoi est-ce que vous aimez tant l'animal qui est le castor ?
C'est particulier parce qu'il y a une vingtaine d'années, je m'occupais d'une association qui s'appelait Nature Aveyron. Et en fait, ces castors, eh bien, j'ai eu l'occasion, moi, de les transporter dans ma voiture, puisque c'est moi qui les ai réintroduits sur la région. Donc il y a une affection personnelle. Mais le but, à l'origine, c'était quand même avant tout de remettre dans la nature ce que l'homme lui-même avait détruit, puisque ces castors, s'ils ont disparu, ils existaient ici jusqu'au 15e, 16e siècle. Et donc, réintroduire une espèce qui avait disparu, pour moi, c'est quelque part un aboutissement en tant que naturaliste.
Quel est le statut de protection du castor ?
Alors, le castor, c'est une des premières espèces de mammifères qui a été protégée en France dans les années 1965, même peut-être avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait pratiquement disparu de France, il n'en restait plus que dans la vallée du Rhône, hein, une petite population relictuelle, et donc il a bien failli disparaître. Et à partir de là, il a été classé comme étant un animal à protéger, bien sûr. Et puis par la suite, avec le classement des espèces en tant qu'espèce pas en danger de disparition, puisque grâce aux réintroductions, il existe maintenant dans de nombreux départements de France, mais il est toujours protégé, il est donc effectivement, c'est un animal qu'il faut absolument conserver.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'observer un castor ?
Alors en fait, pour voir les castors, il y a déjà une période de l'année où c'est beaucoup plus facile. D'une manière générale, le castor, pour ce qui est du soir avant la tombée de la nuit, il a tendance à sortir toujours à la même heure, vers 20h30, 21h. Donc en hiver, pas question de les voir puisque à 18h il fait nuit. Mais par contre, l'été ou à la fin du printemps, lorsqu'on a des lumières du jour favorables jusqu'à 22h, 23h, 22h30, ben alors là on arrive à les voir très facilement. Et en plus, il y a quelques précautions de base. On peut dire que le castor, d'une manière générale, n'est pas vraiment farouche. Il est myope, hein, il est myope, donc il est incapable de voir de très loin. Il peut très bien s'approcher de vous. Par contre, il faut absolument ne pas faire de bruit, parce qu'alors là, il a une oreille très très fine, il compense son manque de vue avec une ouïe très fine. Et puis il a aussi un odorat très important. Donc il suffit finalement d'être sur un site où on sait qu'il y a des castors pas très loin, de rester bien calme sans bouger, et puis on arrive à les voir assez facilement.
Comment est-ce qu'on peut repérer la présence de castors sans vraiment les voir ? Il y a des traces ou...
Alors le castor, c'est un animal effectivement qui dans la journée ne peut pas être observé puisqu'il est essentiellement nocturne ou crépusculaire. Mais par contre, c'est vrai qu'il a un impact qu'on peut facilement observer sur les bords des rives ou sur les cours d'eau dans lesquels il est présent. Soit grâce à ce qu'on appelle des coulées, ce sont des genres de petits passages qui vont jusqu'à la rivière et qu'il utilise fréquemment pour sortir, pour aller chercher des petites branches, soit effectivement par des branches, donc la coupure des branches qui sont effectuées en biseau, puisque le castor, avec ses dents, en donnant plusieurs coups de dents, arrive à couper ses branches. C'est un petit peu comme lorsqu'on a pointe un crayon. Soit encore grâce au stockage de ces branches qu'il effectue le plus souvent au bord de l'eau, à un endroit où il n'y a pas beaucoup de fond. Et donc il stocke les branches pour qu'elles restent fraîches et pour qu'il puisse les manger. Donc c'est toute une série d'éléments qui peuvent permettre d'identifier facilement la présence ou l'absence de castors sur une zone.
Et du coup, l'attitude qu'il faut adopter si on veut les voir, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être silencieux, il y aurait d'autres choses?
Il faut déjà repérer donc un secteur où il y a du castor grâce aux traces. C'est ce que je viens de dire, il faut qu'il y ait des coupes fraîches, il faut qu'il y ait si possible des coulées, il faut qu'il y ait pourquoi pas des garde-manger. Il est évident que s'il y a un garde-manger, c'est-à-dire l'endroit où ils amènent ces branches pour les manger, c'est là qu'on aura le plus de chances de les voir. Et donc, à partir de là, il suffit de s'installer. Et puis, il faut quand même de la patience. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais on peut arriver à faire des super observations.
D'accord. Bah merci beaucoup, en tout cas.
On remercie Jean-Claude Austry, le directeur du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Cossenard, pour cette interview.
Le temps est beau, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
Trouver des castors dans un milieu, il faut que ce dernier réponde à différents critères. La présence permanente d'eau de minimum 60 cm de profondeur pour l'accès au gîte qui se fait sous l'eau. La présence boisée de jeunes saules et ou de jeunes peupliers. Au contraire, un cours d'eau avec une pente supérieure à 1% ou une vitesse en permanence élevée du courant sont des facteurs limitants à la présence des castors. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, une forte population humaine et une forte pollution des eaux ne gêne pas le castor. En France, à la fin des années 1950 à 1991, 148 castors ont été réintroduits dans le sud-est de la France en 13 opérations différentes. Cela représente 60% des réintroductions nationales. Il a été réintroduit pour des raisons culturelles, écologiques, pédagogiques.
L'Ardèche, avec ses 2600 km de cours d'eau, faisait d'elle un département propice à l'accueil du castor. Entre 1920 et 1930, le castor a recolonisé naturellement l'Ardèche. Aujourd'hui, il est présent sur environ 200 communes sur un total de 349. Cependant, ce dernier peut provoquer de nombreux dégâts sur les cultures.
Et maintenant, revenons à nos moutons.
Le quick quiz.
Mais quel est ce drôle d'oiseau ?
Et la réponse à notre quiz est... Alors ? Vous avez trouvé, suspense, suspense, c'était bien évidemment le dindon.
J'espère que notre chronique verte vous a plu. On se retrouve bientôt dans le prochain numéro, toujours animé par les BTS Gestion et Protection de la Nature d'Aubenas. Et surtout,
à bientôt.
C'était la chronique verte, une émission présentée par les BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole d'Aubenas.